voyez, bonjour Daniel, c'est Pauline de Villejuif. Je me promenais au bord de la Marne, il y a un couple en train de faire l'amour. Et je leur ai fait coucou. Ils m'ont dit, viens. Alors j'ai été avec eux, et on a fait l'amour à trois. C'était beau. J'en passais sa femme, et pendant que lui, il me sodomisait. Vraiment, c'était formidable. Tu vois, c'est ça, Daniel. C'est beau, la vie.
Oui, bonjour. C'est Céline, dans le Rhône. Alors, j'ai pris le boulot ce matin. Donc, je suis dans la voiture parce que je fais beaucoup de voitures. Je suis commerciale, donc je passe mon temps dans la bagnole et je vous écoute. Et là, je sais pas si c'est une rediffusion ou si c'est l'émission du jour, parce que je l'ai prise en cours et là, je voyage. Je suis dans la toundra. C'est magique. J'ai l'impression d'y être. Je vois la neige, tout. C'est merveilleux. J'adore cette émission. C'est bravo, parce que vraiment, on est prise de son pareil, mais on n'en trouve pas partout. Et ça met du baume au cœur quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, avec ces gens qui sont dans la rue, hein, il y en a partout, qui crèvent la dalle, la guérilla au Kenya, il y en a marre. Hein. Allez, merci, continuez bien, salut.
Alors, tout d'abord, bonne année 2008 à tous ceux de là-bas, d'ici et d'ailleurs. À l'occasion de l'émission sur les nénettes, je voudrais simplement adresser un vœu d'espoir au peuple nomade, dont la culture, les lois, les libertés sont sans cesse grignotées par les sédentaires que nous sommes, les sédentaires avec leur attrait pour la possession et le gain. Et puis je voulais profiter de cette occasion pour tous ceux qui ont aimé ce reportage, de parler d'un DVD qui est un petit peu dans le même esprit, qui a été réalisé par, entre autres par une femme d'origine nénette qui vit en Finlande, c'est Anastasia Lapsui. C'est dans la collection Blackout Collection, ça s'intitule Les Sept Chants de la Toundra. C'est une suite de sept histoires de nénettes pendant tout le siècle, avec différentes étapes entre avant la collectivisation, après. Voilà, c'est très beau, c'est un très beau complément du reportage qu'on a entendu ces derniers jours. Au revoir.
25 juillet 1794. Enfant, j'ai quelquefois passé des jours entiers au jardin, dans les prés, dans quelques verts sentiers, creusés sur les coteaux par les bœufs du village, tout voilé d'aubépines et de mûriers sauvages. Mon chien auprès de moi, mon livre dans la main, m'arrêtant sans fatigue et marchant sans chemin, tantôt lisant, tantôt écorçant quelques tiges, suivant d'un œil distrait l'insecte qui voltige, l'eau qui coule au soleil en petits diamants, ou l'oreille clouée à des bourdonnements, puis choisissant un gîte à l'abri d'une haie, comme un lièvre tapi qu'un aboiement effraie, ou couché dans le pré dont les gramins en fleurs me noyaient dans un lit de mystère et d'odeur, et recourbèrent sur moi des rideaux d'ombre obscure, je reprenais de l'œil et du cœur ma lecture. Lamartine.
Salut Daniel, et bonne année à toi et toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Et moi, je voudrais souhaiter plein de bonnes choses aux AMG et leur souhaiter une bonne année 2008. Et puis surtout, par exemple, d'avoir un ami milliardaire qui vous prête son yacht et son jet pour vos vacances. Aussi, d'être sacré super-héros galactique si vous réussissez à libérer Ingrid. De ne pas perdre vos papiers d'identité en 2008. De ne pas avoir d'angine blanche. D'avoir un employeur compréhensif qui vous augmente de 170% si pas malheur marleur vous divorcez, de rencontrer l'amour de votre vie chez Mickey, de réussir enfin à supprimer toute l'injustice du monde en faisant cotiser les cheminots aux 41 ans, d'être bronzé toute l'année, de ne pas voir vos amis pactiser avec vos pires ennemis. Voilà, c'était en vrac des idées de souhaits pour tous tes AMG. À toi aussi et à ton équipe. Salut.
Oui, bonjour Laurent de Vincennes. Voilà, je voulais commencer par une lecture généreuse du livre d'Eva Joly, La force qui nous manque aux éditions des Arènes, aux pages 29 et 30. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure le sujet. Nos réunions sont un drôle de mélange de technique et de chaleur. Elles ont lieu deux fois par an. Chacun commence par raconter ses dossiers, leur évolution, puis l'échange s'installe. Comme dans un puzzle, les pièces éparses se soudent progressivement, car les biens mal acquis se cachent loin des terres dont ils exploitent les richesses. Irfan Kadir, ancien procureur au Pakistan, a ainsi raconté les avancées du dossier Benazir Bhutto, ex-première ministre qui, de 1988 à 1996, avec la compagnie de son mari surnommé Monsieur 40%, a ponctionné d'incroyables commissions lors de marchés passés par l'État pakistanais avec de grands groupes occidentaux. On parle de milliards de dollars ainsi détournés et blanchis via des centaines de propriétés, d'innombrables comptes bancaires et sociétés écrans. À la fin de son mandat, le Pakistan l'a poursuivi pour corruption et enrichissement illicite, mais seule la Suisse a répondu à sa demande d'entraide judiciaire. Le juge helvète Daniel Devaux était parmi nous. Il a mêlé sa voix à celle d'Irfan pour raconter la condamnation dans son pays de Madame Bhutto. Plus de 500 comptes bancaires au nom de la famille Bhutto ont été gelés. La justice a ordonné le transfert de 12 millions de dollars vers le Pakistan. Ces fonds sont actuellement bloqués puisque la condamnée fait appel. Ailleurs, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, il n'est pour l'heure pas question de saisir les luxueuses propriétés et les avoirs de la dame. Page 29 et 30, écrit par Eva Joly, La force qui nous manque aux éditions des Arènes. Merci, au revoir.
Bonjour, je tiens à dire que je suis content que la sainte interdiction de fumer soit en vigueur dorénavant, car maintenant je pourrai aller au bistrot pour boire un coup sans être obligé de respirer la fumée des autres. C'est un véritable scandale. Vive la loi qui interdit de fumer.
Il y avait une chanson d'Yvelin qui s'appelait « Je suis amoureux d'une cigarette ». Je suppose qu'on la passe partout en ce moment. « Je suis amoureux d'une cigarette » ou « Dieu est un fumeur de Havane ». Je suppose qu'on la passe tout le temps. Je dois avouer, pour ma part, que je me réjouis beaucoup de cette loi. Et voilà. Merci en tout cas pour vos messages, amis modestes et géniaux. Bonne année, bons vœux et bon vent aussi à tous. Aujourd'hui, on revient un peu en arrière sur une paire d'émissions qu'on vous a présentées l'an passé, sur l'Assemblée Générale des Actionnaires. Habillez-vous beau, faites-vous beau, vous êtes riche pour une heure au moins. Vous savez que être riche est un tabou français. Pourquoi les Français ont-ils honte d'être riches? D'où vient ce rapport de culpabilité avec l'argent? Il y a une véritable ségrégation, un racisme anti-riche dans ce pays dont, on l'a compris, ce nouveau président entend nous libérer par une exhibition frénétique de richesses, de voyages fabuleux et d'étalages du luxe, etc. Eh bien, on va tous être actionnaires pendant une heure. Comment être actionnaire d'une des plus belles entreprises françaises, un des fleurons de l'industrie française, LVMH, dont vous connaissez le héros Bernard Arnault. Et c'est quand même assez nouveau, c'est un signe de l'époque qu'on connaisse plus ceux qui réussissent dans les affaires que les véritables chercheurs, intellectuels, etc., comme jadis. C'est ainsi, c'est un air du temps, sauf qu'il y a encore, il traîne encore des mécontents, vous savez, ceux qui grognent. Ceux qui grognent. Et bien, on va les entendre grogner, on va entendre 147 femmes ouvrières d'une entreprise grogner qui ne sont pas contentes, vous savez pourquoi? Eh bien non, eh bien vous allez l'apprendre au cours de cette heure. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse justice au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Déjà, tous mes meilleurs voeux pour 2008. J'écoute actuellement votre émission et j'entends les messages sur votre boîte vocale. Alors évidemment, ça ne plaît pas aux fumeurs d'arrêter de fumer, bien évidemment. Je comprends leur problème, mais je comprends aussi le problème des gens qui ne fument pas, qui ne veulent pas être enfumés. Et moi, je suis bien contente que cette loi soit passée. Je ne suis pas quelqu'un de droite, mais je suis pour cette loi parce que j'estime que quand on va en boîte, quand on va dans un café, même dans les lieux non fumeurs qui étaient appropriés, on est toujours enfumé. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour que les gens arrêtent de fumer. Il faut les aider, c'est certain. Mais je trouve que de ne plus fumer et de ne plus être enfumé, c'est bon pour la santé. Et quand on parle de l'alcoolisme, bien sûr, c'est un problème. Mais enfin, je pense que la volonté de s'arrêter de fumer, c'est quand même très, très important. Et quand on a des enfants, des adolescents, ou des gens qui se réunissent dans les lieux publics, on est content qu'ils restent en bonne santé. Merci.
Bonjour, bonjour et bonne année à tous. Je voulais pas écouter, réécouter, parce que j'avais déjà entendu l'émission sur les nanettes. Et finalement, c'est la voix de la traductrice, son intonation tellement chaleureuse qui m'a captée. Voilà, je voulais dire, je me rappelle pas comment elle s'appelle, cette jeune femme, mais enfin bon. C'est vraiment sympathique, voilà. Et puis par ailleurs, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année en espérant que 2008 sera l'année de la reconquête de nos droits, de l'indépendance des syndicats qui est bien menacée aujourd'hui et de la réussite de notre combat à tous pour obtenir un référendum pour dire non à ce traité qui n'est que la copie conforme de la Constitution européenne et la continuation de la politique de destruction menée par celle-ci dans tous les pays d'ailleurs, pas seulement en France, des services publics, des services de santé, de tout ce qui permet aux travailleurs, à tous ceux qui travaillent, qui vivent de leur salaire, de pouvoir vivre correctement. Voilà, et bien sûr, au-delà de ça, j'espère aussi qu'on va pouvoir sortir de cette situation où on est écrasé de toutes parts. Voilà, écoutez, hein, bon courage à tous et j'espère qu'on va y arriver. Ciao.
Oui, dans une église, en principe, on doit recevoir tout le monde, même les plus pauvres. Moi, je suis pas catholique, mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait « aidez-vous les uns les autres ». Allez, salut.
Oui, bonsoir, c'est Dominique dans les Pyrénées-Orientales. Donc, c'était pour souhaiter une bonne année à tous les auditeurs, à toute l'équipe de Daniel Mermet. Et voilà, je téléphonais pour dire que je venais de comprendre pourquoi on n'avait plus le droit de fumer dans les lieux publics. C'est que pour que les gens puissent se rencontrer maintenant, comme ça, on sort dehors fumer une clope et puis on discute avec les autres du fait qu'on n'ait plus le droit de fumer à l'intérieur. C'est pas mal trouvé, hein. Et sinon, j'avais une autre petite information. J'ai entendu donc que le RMI était augmenté de 1, je sais pas combien de pourcents. Par contre, j'ai lu sur Internet qu'il y a quelqu'un qui avait fait le calcul de ce que ça représentait. Donc, ça représente 3 centimes d'euros par jour. Hein. Donc, merci, monsieur Neuilly, de cette royale augmentation pour les RMistes. Hein. Allez, la lutte continue. Au revoir.
Oui, Rodrigue de Saint-Hilaire de Chaléon, voilà, j'appelle pour filer un petit message à tous les habitués du repère de la Motte au Cochon, qui se situe à 20 minutes de Nantes sur la route de Pornic, voilà, donc à Saint-Hilaire. Donc petit message, contrairement à l'habitude, à l'accoutumée, la rencontre à la Motte au Cochon ne se fera pas ce premier dimanche du mois, mais bel et bien le deuxième dimanche du mois, donc la semaine suivante, et on aura un thème qui sera les centres de rétention et ce qui s'y passe, et des membres de la CIMAD qui viendront pour faire une petite conférence à propos de ce qu'ils vivent au quotidien avec les sans-papiers. Voilà, donc rendez-vous à 17h dimanche 13, je crois, et venez nombreux à la Motte au Cochon. Merci. Au revoir.
Longue vie à la Bassigissui et donc tous nos voeux pour 2008 et ces quelques mots d'Antonio Machado pour toute l'équipe. Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas. C'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure, mais notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Bernard Arnault, nous voilà.
Monsieur Arnault.
N'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Ah ouais. votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre acheter des actions. Ben, j'ai dit, il faut changer dans la vie. Hein. Maintenant, je vais être actionnaire.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec François Ruffin et Pascal Pascariello, l'Assemblée des actionnaires.
Bonjour, je vous rappelle à tous que la ceinture est obligatoire.
Oui.
En cas de contrôle de police, c'est 135 euros d'amende pour la personne qui n'est pas attachée, bien sûr.
Marie-Hélène, là, on est... c'est les deux quarts qui se suivent.
Oui, et ils sont plats. Nous sommes une centaine. Je vais prendre le micro du chauffeur et je vais annoncer où est-ce qu'on va exactement. Il n'y a personne qui sait où on va exactement. Et vous pouvez écouter, je vais prendre le micro.
Je vais écouter.
Alors, notre opération aujourd'hui, nous allons au Palais du Louvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. LVMH, qui est notre donneur d'ordre à ECCE, et c'est quand même, c'est lui qui décide où on fabrique les costumes que nous fabriquons encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée des actionnaires, et ils se rassemblent au Palais du Louvre, dans une salle. Donc il y aura sûrement Bernard Arnault. Donc nous allons manifester sans se bagarrer, hein. Distribution de tracts, nous allons mettre la sono pour aussi s'expliquer pourquoi on est là, nous les salariés, faire voir notre travail, hein, comme Marivonne, et puis c'est la chaîne de Marivonne, il y a plusieurs qui ont travaillé là-dessus, ont fabriqué des petits costumes en miniature, alors on va les appeler Oscar et Gaston. Donc ils ont fabriqué deux costumes, un costume Kenzo et un costume Givenchy, hein, avec le logo Made in France, vous verrez. On construit des grands costumes, c'est déjà difficile, mais des petits, c'est encore plus difficile. Donc vous verrez le savoir-faire de ces filles, et c'est ce que nous allons démontrer à LVMH, que nous, on veut absolument que l'entreprise vive encore. Donc nous allons tout faire pour que cette société ne ferme pas. On ne veut pas aller ailleurs. On ne veut pas aller en Roumanie, ni en Pologne. Donc nous, on a travaillé là des années et on veut rester là. Si LVMH, il nous donnerait des costumes à fabriquer, on pourrait rester là. Donc c'est comme c'est notre donneur d'ordre, il faut absolument qu'on se fasse entendre. Voilà notre destination aujourd'hui.
Et là voilà, vous avez tout compris, elles sont une centaine dans ces deux autocars venant de Poix-du-Nord, près de Maubeuge, Poix-du-Nord, où se trouve leur entreprise ECCE, entreprise de confection et de commercialisation européenne. Alors voilà, dans cette entreprise, depuis fort longtemps, elles y fabriquent des costumes, de la couture de très grande qualité, de la confection de qualité. Et puis, cette entreprise est devenue sous-traitante du groupe LVMH. Mais voilà que, scénario tout à fait classique. En France, le coût d'un costume bien cousu, bien construit, on dit construit, est autour de 110 euros de coût de revient. Et dans où vous voudrez, en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie, c'est 30 euros pour des costumes qui sont en moyenne revendus autour de 1000 euros. Voilà. Ah, évidemment, dans ces cas-là, le patron de CCE est bien contraint de partir pour ces pays et de laisser ses ouvrières sur le carreau. Quel costume fabrique-t-elle? Elle fabrique des costumes de marque Kenzo, très joli, très chic, Kenzo. Givenchy, très joli, très chic, Givenchy. Et tout ça, ce sont des marques du groupe prestigieux, premier groupe de luxe du monde, LVMH. Alors évidemment, ça la fout mal. Ça la fout mal au point de vue du dialogue social, image de marque, etc. Or, elles se battent, vous entendez Marie-Hélène Bourlard, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et là, ce jour-là, pour enfin, dialoguer avec ceux qu'elle considère comme les responsables de leur malheur et de ce sentiment de rejet, de mépris, qu'on peut tout à fait comprendre et partager. Elles arrivent à Paris, certaines, vous allez le voir, ne connaissent pas trop cette ville. C'est grand, c'est beau, c'est bon, enfin bon. Voilà, l'important, c'est de rester dans le Nord, c'est de pas se faire virer, c'est d'essayer de vivre tout simplement et de travailler au pays. C'est donc leur lutte et leur destination. Aujourd'hui, la journée des actionnaires.
Moi, je suis pour vous. Accroche à ton cœur, à morceau de chiffon rouge.
Pas de connard, hein.
De fleurs couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi, car il est temps. Allons droit devant. Tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie.
Son empire s'appelle LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Bernard Arnault règne sans partage sur Dior, Givenchy ou Dom Pérignon et tous ceux qui incarnent le luxe dans le monde. Comment gère-t-il son empire? Comment est-il devenu la 7e fortune mondiale?
Selon nos calculs, en 2005, il aurait perçu par mois plus de 9 millions d'euros, près de 13 000 euros de l'heure. Mais il n'admet pas que l'on puisse trouver ces sommes exagérées.
C'est plus amusant de dire monsieur Attel gagne autant et regardez ça, c'est beaucoup trop. Voilà, ça c'est plus amusant à dire que regardez ce monsieur, bon d'accord, il gagne un peu, il gagne très bien sa vie, mais voilà le nombre d'emplois qu'il crée et voilà l'impact que ça a sur l'économie française. Moi c'est plutôt cet aspect-là qui me paraît nécessaire de mettre en avant, parce que la réussite d'un pays, je vous l'ai déjà dit, elle vient de la réussite de ses entrepreneurs.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà ce qu'on peut lire sur le Panthéon à Paris. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et quels sont ces grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante? Ce sont des hommes politiques, des scientifiques, des écrivains, des grands esprits, des chercheurs. Mais, on me dit qu'il n'y a aucun homme d'affaires, il n'y a aucun businessman. Eh bien, il faudrait quand même y songer. Parce que si on écoute quelqu'un comme Bernard Arnault, voilà un grand homme auquel la patrie devrait être reconnaissante tant il développe notre pays, son image, l'image de notre pays, c'est-à-dire le luxe à travers le monde. Et puis le business, et puis les profits, et puis les emplois. Alors ça, sur la question des emplois, c'est lui qui le dit, mais voilà que ces 140 ouvrières, 147 ouvrières ne sont pas d'accord, disent l'inverse. Elles sont venues lui dire, il a peut-être pas fait attention, il est pas au courant de tout quand on est à la tête d'un empire de cette dimension, qu'on gagne 13 000 euros de l'heure, on peut parfois être un petit peu distrait. Donc voilà pourquoi elles sont venues à Paris dans l'espoir de le rencontrer. Elles sont dans le car et elles se dirigent vers la capitale.
On avait fini de payer la maison il y a 5 ans et on n'a pas un sou de côté malgré pour ça. Hein. Je te jure, la vie elle est tellement dure, on a de plus en plus de mal.
Vous avez acheté votre maison ?
Oui, je l'ai acheté il y a 20 ans maintenant. Hein. Et il y a 5 ans que je l'ai fini de payer. Quoi. Bon, quand on perd notre travail, on va peut-être obligé de revendre la maison pour pas s'endetter. Quoi. Parce que bon, je voudrais bien la laisser à mes enfants. On a eu du mal à l'avoir en plus. Mais j'ai une jolie maison. C'est vrai que on a travaillé pour l'avoir tous les deux. Et c'est vrai que j'ai une jolie maison. J'aurais mal au cœur de m'en séparer. Et moi, j'aime tout. Je me plais chez moi. Enfin, je sais pas. Toi aussi, tu te plais chez toi. Bon. On s'est privé aussi pour certaines choses. Hein. Les vacances, je me souviens pas d'avoir été du reste. Mais bon, comme on se plaît à la maison, pour nous, c'est le soleil tous les jours. Hein.
Quand t'as plus de travail, tout ça, moi, je dis autant partir. Nous, on envisage de partir. Bah, du côté du midi.
Et là, tu trouves que là-bas, il y a plus de travail?
J'y suis déjà allé, hein. Ils vivent pas comme nous.
Nous, dans le Nord, oui, ils sont plus cool. Nous, on est beaucoup plus speed. Moi, je ne quitterai pas ma région quand même.
Non.
Moi, ma vie, elle est ici. Je vois pas pourquoi je m'en irais.
Si t'as plus de travail, t'as plus rien.
Partir loin de toute votre histoire.
Ah oui. Hein.
Moi, je pourrais pas oublier tout ça. C'est pas possible.
Oui, parce que toi, t'es à fond dedans.
Mais même partir, comme tu dis, au soleil, mais voilà. C'est pas sûr que la vie, elle est plus agréable au soleil.
Non,
hein,
non, c'est pas ce que je veux dire. Hein.
Vous avez les yeux tout humides, toutes les deux, là, je vois.
Bah, vous savez, c'est dur, hein, ça.
Ouais. Moi, je sais que dans notre chaîne, on s'entend bien. Ils cassent tout, de toute façon, ils cassent tout. Sur les chefs, ils cassent tout. Hein.
Les chefs cassent tout.
Quand tu vois qu'ils passent pour ramasser les machines qui vont s'en aller devant toi.
C'est-à-dire comme ils vont faire un atelier à la logistique, un atelier de production avec les prototypes et les collections. Et donc ils sont en train de programmer ça. Et ils regardent les machines qu'ils vont prendre. Et mais l'ouvrière est encore à sa machine. Et on met un papier sur la machine en disant on va prendre cette machine-là. Et l'ouvrière est encore dessus. Alors ça, c'est pas acceptable, quoi. Hein. Il y a des façons de pas faire quand même. Hein. Et ça casse les gens, quoi. On est encore à nos machines qui sont déjà en train de mettre des collants en disant à garder la machine, mais pas l'ouvrière, quoi.
Hein. C'est parce qu'ils nous ont fait un coup quand ils ont fait ça. Hein. Ou alors ils auraient dû le faire, mais quand on n'était pas là. Le faire sans que l'ouvrière s'en aperçoit. Parce que bon, tu fais ton travail, tu penses pas tous les jours que tu es dans l'ambiance, donc tu penses pas que ça va fermer, tu es toujours...
On a toujours un espoir,
voilà.
Et on se bat pour ça. Les dernières années, avec le gamin, on avait du
mal. Parfois, en plein milieu d'une réunion, Bernard Arnault s'interrompt et vient jouer quelques notes.
De temps en temps, comme tout chef d'entreprise, il y a des soucis et puis c'est bien de les évacuer et de penser à autre chose. Ça permet d'ailleurs de garder les idées claires.
Nous ne sommes pas chez lui, mais au 7e étage du siège de LVMH. Son salon de musique se trouve juste à côté de son bureau.
Ça va, Karine ?
Le lundi, alors, la semaine du président commence toujours par le même rituel.
Très bien. Oui, ben, pas mal.
À 57 ans, il dirige en solitaire. Pas d'adjoint, pas de bras droit.
Bon, je vais regarder ça, puis après on fait le point.
Oui.
Comme d'habitude. Hein ?
Il consulte sa revue de presse.
C'est tout ce qui concerne le groupe LVMH dans les journaux du matin.
Tout ce qui concerne le groupe pendant le week-end. Oui, c'est mondial.
Ensuite, il appelle quelques directeurs des 52 sociétés de son groupe.
Alors, il faut qu'on fasse le point tout à l'heure pour voir exactement le planning qu'on va faire au Japon. Hein. Parce qu'il faut qu'on organise ça. On y est pendant 3 jours. Et Yokohama, on y va en voiture. Hein. C'est pas trop de bouchons ou en train. Hein.
Il parcourt le monde et garde un œil sur tous les chiffres. Des chiffres et des noms qui donnent la mesure de sa puissance.
Colin Froid, c'est un des surnoms de Bernard Arnault. Colin Froid, tant cet homme est calme. prédateur. C'est pas un surnom, une qualification qui lui déplaît trop. Tant il est vrai que ces hommes, ces grands hommes d'affaires, deviennent peu à peu des héros, parce que le parcours compte peu. On retrouve là une phrase celle célèbre. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, ce qui compte c'est le résultat, c'est qu'il attrape la souris. Ben, les parcours de ces grands hommes d'affaires, grands businessmen, sont ces success stories sont pleines de machiavélisme, de cynisme, de coups bas, etc. Mais peu importe qu'on les déteste ou qu'on les admire, au fond, ça nous est assez indifférent. Oui, bon, ben voilà, ils s'enrichissent, et puis moi, je m'enrichis pas, mais c'est leur truc. C'est leur truc, sauf au moment où ces enrichissements, cette puissance économique qui est la leur, a des incidences sur la vie de tous. Parce que la question de l'enrichissement, c'est que c'est en même temps un pouvoir qu'on a de plus en plus et qu'on exerce, évidemment, qu'on ne manque pas d'exercer et qui peut échapper au pouvoir politique. Quand le pouvoir économique n'est plus sous le contrôle du pouvoir politique, on peut s'inquiéter. Je dis ça parce que ça fait très longtemps que j'habite un quartier de Paris qui est tout proche de la Samaritaine. Voilà, c'est un quartier que je connais depuis mon enfance, on peut dire. Et ce quartier est complètement morne aujourd'hui. La Samaritaine, c'est une activité, une fébrilité, des tas de petits commerces, des tas de... Et aujourd'hui, ben, c'est fini, c'est vide, et on sait pas très bien ce que ça deviendra. Voilà un tout petit effet de l'enrichissement. C'est que le pouvoir de tous, le pouvoir politique, n'a pas de pouvoir sur une décision économique concernant un quartier. Je pourrais bien prendre bien d'autres exemples, et celui-là, par exemple, celui du sort de ses salariés et de ses ouvriers et de ses ouvrières. À la Samaritaine, les ouvriers et les ouvrières ont été remerciés. Certains ont pris ça de travers, c'est même la majorité. Et voilà pourquoi, ce jour-là, on se retrouve avec Madeleine Chorton. Madeleine Chorton, elle est déléguée CGT de la Samaritaine et elle n'a pas raccroché.
Alors aujourd'hui, Madeleine Chorton, vous allez nous aider à découvrir le monde merveilleux des petits actionnaires.
Oui, oh, le monde merveilleux merveilleux pour eux, mais pour nous, je crois qu'il n'y a pas beaucoup, enfin en tout cas, j'ai pas beaucoup d'illusions, hein, surtout sur LVMH, parce que bon, je les connais un peu quand même, j'ai participé au comité de groupe. Comités de groupe, on rencontre tous les grosses têtes de chez LVMH qui viennent vous expliquer comment ils font pour gagner des millions et des millions d'euros. À des gens qui gagnent le SMIC, d'ailleurs, ils ont vraiment aucun scrupule.
Mais là maintenant, vous...
Là, maintenant, on franchit un pas supplémentaire. On va avoir accès, j'espère, parce qu'on n'est pas encore rentré, à Monsieur Bernard Arnault, l'homme invisible.
Mais ça, c'est parce que vous êtes devenu actionnaire.
Oui, j'ai pris une action à 86 euros, plus 14 euros de frais de banque, ce qui m'a coûté quand même 100 euros. Mais enfin, j'espère que ça vaut le coup et que... Je pourrais quand même m'adresser pour les salariés de la Samaritaine directement à Monsieur Bernard Arnault, qui a jamais daigné prendre part à aucune de nos réunions. En tant que salarié, on n'a jamais pu le voir, jamais. Mais en tant qu'actionnaire, on espère peut-être. Alors allons-y.
Vous portez du LVMH, là, sur vous ?
Alors, absolument rien d'LVMH. J'ai vraiment pas les moyens. Hein. C'est pas avec le SMIG.
Comme pour l'ascenseur.
Alors, je risquais pas de m'habiller. Je risquais pas de m'habiller chez LVMH.
Donc, vous êtes habillé à la Samaritaine, là ?
Non plus, non, pas du tout. Je suis habillé chez PK pour la robe. PK, oui, c'est des magasins pas chers dans le métro à Paris. Je ne sais pas si ça existe peut-être pas en province.
Je porte la plupart du temps des marques de mon groupe. Oui, oui, aujourd'hui c'est du Dior, quelquefois c'est du Vuitton.
Par exemple, là vous êtes habillé comment?
J'ai des souliers Berluti, un jean Dior, une chemise Dior. Tester les produits soi-même, c'est quelque chose qui vous permet d'être en contact physique avec ce que vous vendez. Ça, c'est mon sac de voyage.
Vuitton est le fer de lance du groupe, l'une des sociétés qui lui rapporte le plus d'argent. Clients aisés, prix élevé, marge record, jamais de solde. Ici, un sac en milieu de gamme se vend 1770 euros. Et c'est du Made in France, un argument apprécié des clients.
Et puis ma veste, je l'ai achetée à la fête de l'humanité il y a 5 ans, dans un stand péruvien. Il y a que les chaussures, c'est vrai que les chaussures, elles viennent de la Samaritaine. Je les avais achetées en période de promotion pendant les 4S. Les 4S, c'était des périodes promotionnelles dans les grands magasins. La Samaritaine, ça s'appelait comme ça. Au bon marché, c'est les TBM. Au printemps, c'est les...
Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et ça fait combien de temps que vous avez travaillé à la Samaritaine?
Ça fait... Ben, je suis rentrée en 68. Ça va faire 40 ans l'année prochaine, si je suis encore là, parce que pour l'instant, je suis en procédure de licenciement, donc...
On descend de quelle station après, vous savez?
Non, faut qu'on sorte à Palais Royal. Je pense qu'on devrait changer à République. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'ils vont faire là tout un quartier de grand luxe dans Paris. Et ça sera sûrement le plus grand quartier de luxe d'Europe, ça c'est sûr. Mais peut-être aussi du monde, parce que j'ai pas voyagé en Amérique, mais je suis pas sûre qu'il y ait l'équivalent. En plus, c'est en plein centre de Paris. Là, vous avez le Louvre. Là, vous avez Notre-Dame. Derrière, là, vous avez le Châtelet. Là, de l'autre côté, vous avez le Forum des Halles, qui va être complètement refait aussi. Donc, ça sera vraiment un endroit pour les riches, bien sûr.
Alors, là, il y a le Pont Neuf. Le Pont Neuf, c'est donc le plus vieux pont de Paris, malgré
c'est
son nom.
C'est le plus vieux pont de Paris. C'est là qu'a débuté Monsieur Cognac sur le Pont Neuf avec un parapluie. Il vendait comme ça, la criée, des articles bon marché à l'époque. C'était en 1870. Donc ensuite, eh ben, il a traversé, il a acheté ici une petite boutique qu'il a ouverte et c'est là qu'il a commencé à vendre. Il a avec sa femme qu'il a été chercher au bon marché puisqu'elle était vendeuse au bon marché, elle. Et c'est là qu'ils ont commencé vraiment à monter ce qui est devenu après la Samaritaine.
Il n'a pas commencé sa carrière dans l'industrie du luxe. Sorti de Polytechnique, ce fils de bonne famille du Nord a transformé l'entreprise de travaux publics de son père en société immobilière. Les maisons Ferrinel, c'était lui.
Chérie, qu'est-ce que tu fais?
Bah, je viens de sortir du propriétaire.
Mais son premier coup d'éclat a lieu en 1984. Il a 35 ans. Avec l'accord du gouvernement Fabius, il promet de redresser le groupe textile Boussac et de sauver les emplois. 3 ans plus tard, il fait tout le contraire. Licencie, revend Boussac par petits bouts et garde un joyau, la maison de couture Dior. Dior, une marque qu'il valorise et qui fonde son empire du luxe. Deuxième coup financier en 1989. Les deux patrons de Louis Vuitton et de Moët Hennessy l'appellent en renfort pour contrer une OPA hostile du groupe anglais Guinness. Avec le sourire et sous les flashs des photographes, Bernard Arnault vole à leur secours. Puis il fait volte-face. Il s'allie à l'ennemi Guinness pour prendre seul le contrôle de LVMH.
Alors, expliquez-moi, parce que moi, là, j'ai Gaston entre les mains.
Ouais, on va dire un mannequin, quoi. C'est un bout de bois qui sert de corps. La tête est représentée bah, par un squelette, on va dire. Hein. Les yeux habillés de deux billes. Petite chemise, hein, fait par, bah, par nous, hein. Voilà. Petite chemise blanche. La cravate était faite par un petit bout de tissu, un petit bout de doublure.
C'est quoi ?
Du tissu qu'elle a fait. Elle faisait des gilets, des chemises.
Alors Gaston, il dit quoi, à votre avis ? Gaston, il dit donnez-nous du boulot.
Il veut rester
à Poix-du-Nord, Gaston. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là ?
Ils ont mis Made in France.
Ils ont mis un petit drapeau français en fait sur la poche. Du costume devant.
Les manches, elles sont pas rembourrées. Si. Ah si, ils ont mis des épaulettes, tout. Tout est mis, les épaulettes, les boutonnières. Là, il y a le montage manche.
Une des opérations la plus délicate du vêtement.
Les deux manches, pareil. Bon, nous, on les monte maintenant comme ça parce qu'on a l'habitude, mais...
Parce que quand on regarde un vêtement dans un magasin, vous regardez les manches et les revers.
Ah, portable.
C'était une...
Allô, François?
Ah, François, ben j'arrive.
On arrive là.
C'est bon, hein, on est dans les temps. Hein.
Quelle heure il est ?
9h30, je crois que l'assemblée c'était 9h30, non ?
C'était l'assemblée, 10h30.
Oui, bon, c'est bon, on est dans les temps. Bernard Arnault, nous voilà.
Bernard Arnault, nous voilà, dit Marie-Hélène Bourlard, avec toutes les ouvrières, une centaine des ouvrières de cette entreprise ECCE, donc qui craignent, redoutent un licenciement et qui donc arrive à cette assemblée des actionnaires, l'assemblée annuelle des actionnaires de LVMH. Pour cela, je le rappelle, c'est possible pour chacun. Hein. Il vous suffit d'acheter une action et vous devenez actionnaire. Et vous pouvez assister à une assemblée d'actionnaires et vous pouvez poser des questions. On doit vous répondre et c'est ce qu'elles vont faire. Alors, c'est peut-être pas des questions très, très attendues par les organisateurs et par la direction de cet important groupe de luxe, LVMH, mais évidemment, c'est le but de la manœuvre.
C'est pas facile d'approcher Bernard Arnault. Et c'est François Ruffin, un journaliste de France Inter, qui m'a dit la date de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Donc on a dit, ça serait bien qu'on va vers eux, vu qu'ils viennent pas vers nous. J'ai pris une action pour pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale. Hein. Ça m'a coûté quand même 86,10 € l'action, hein, plus des frais de poste, enfin une ouverture de compte, tout ça. J'ai dépensé 118 € et quelque chose. Mais c'était pour pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale des Actionnaires et puis dire tout haut ce que j'ai envie de dire. Quoi.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action ?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus ? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre acheter des actions. Bah, j'ai dit, il faut changer dans la vie, hein. Maintenant, je vais être actionnaire. Et moi, à mon avis, j'avais pas la tête à avoir des actions, quoi. Faut être bien présentable, sûrement. Ceux en costume, comme le 440, quoi. Hein, tous ces amis.
Et que vous allez faire des dividendes que vous allez avoir.
Je vais sûrement les dépenser, hein, parce que un ouvrier dépense tout, hein. C'est pas qu'il est dépensier, mais on a tellement du mal à arriver que nos salaires passent dans la vie courante de tous les mois, quoi. Et c'est sûr que un actionnaire, lui, il mettra plutôt de côté. Tandis que nous, on a du pouvoir d'achat, on achète pour nos enfants, pour la famille, quoi. Nous, on fait vivre l'économie. Moi, j'aimerais demander à LVMH, Bernard Arnault, j'espère que je le verrai, qu'il revienne sur son contrat, qu'il revienne et qu'il nous donne des pièces à fabriquer à Poix-du-Nord. Que les filles de CCE, les ouvrières, les petites mains, qu'ils ont tant travaillé pour Kenzo, donc leur griffe, Givenchy, elles sont là, elles attendent qu'ils sortent, au moins, qu'ils nous regardent en face. Nous, on voudrait le voir pour dire, voilà, il y a ici 147 ouvrières et on veut pas se retrouver demain au chômage.
Et aux actionnaires?
Je pourrais me retourner aussi sur eux et dire, est-ce qu'ils n'ont pas honte de ramasser de l'argent alors que 147 vont être sur le carreau?
Est-ce qu'ils n'ont pas une conscience? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement?
Je ne sais pas comment je serai devant eux, mais je vais oser parler. Hein. Je ne vais pas avoir peur. Ce n'est pas qu'ils me font peur. Hein. Parce qu'ils se sont mis plein les poches quand même grâce à nous. Hein. Donc, ils nous doivent quelque chose en retour.
Vous avez une idée de de ce que leur apportent les actions ou pas?
Ben non, parce que nous, on ne baigne pas là-dedans. Pour nous, les actions, ça ne veut rien dire. Nous, on fournit un travail, on est payé. C'est ça, fruit du travail. Et moi, je veux qu'on continue à travailler pour pas que ces gens-là tombent dans la misère. Parce que c'est ça qui nous attend derrière. On est dans un bassin d'emploi où il y a 14% de chômeurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner à faire? Donc c'est ça qui est dramatique. Tout ce qu'on nous propose, parce qu'il y a une cellule de reclassement qui est là depuis 2003, et tout ce qu'ils nous proposent, c'est l'aide à la personne. Hein, bon, c'est bien gentil de nous dire ça, mais tout le monde n'aime pas. Et puis, c'est des temps partiels. On gagne même pas 1000 euros avec ça. Hein, c'est ça qu'ils nous proposent? Non. Ça, non.
Peut-être vous pourriez demander à tous les actionnaires s'ils n'ont pas des petits boulots à vous proposer.
Ah bah oui, je vais leur demander aussi. Pourquoi pas? Jardinier, peut-être. Ou pour nettoyer leur piscine. Ou pour garder leurs mômes qui sont infernales. Peut-être promener leurs chiens aussi, hein, parce qu'en Amérique, les boulots qu'on propose, c'est d'aller promener les chiens des actionnaires. Vous rendez compte? Ou est-ce que jusqu'où on y va, là? Je n'irai pas, je vous le dis tout de suite. Non.
Ça vous ferait pas, Marie-Hélène, un petit chien à promener?
Bah non, hein. Je suis pas leur bonne. Hein. Moi, je suis bien dans mon monde d'ouvrier. Pour moi, on sent la valeur des gens. Hein.
Vuitton, Guerlain, Céline, Chomet sont à lui. Les stars d'Hollywood, les mannequins vedettes participent au défilé de ses maisons. Dior, Kenzo, Givenchy. Il a investi dans les montres, bijoux, champagne, cognac, Grand Cru. Il a transformé LVMH en usine à rêve et en machine à dividendes. Succès planétaire, rentabilité exceptionnelle.
C'est Tony Blair, je crois, qui rêvait que ces grands hommes d'affaires deviennent aussi populaires que des joueurs de foot. Eh ben, on y va doucement. Peut-être pas aussi vite que certains le souhaiteraient, mais ça se fera sans aucun doute. En attendant, certains ne sont pas entièrement heureux. Tout ça ne satisfait pas évidemment tout le monde. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et nous, on est un petit peu du côté des œufs, là, aujourd'hui, avec François Ruffin et Pascal Pascariello. Alors là, on est à la Samaritaine, à Paris, avec ceux qui n'y sont plus, à la Samaritaine.
On passe dans les rues, bon, il y a le bruit des camions de CRS qui passent avec leurs pimpons, des gendarmes qui passent avec leurs pimpons. Mais sinon, c'est très silencieux.
Et c'était devenu très silencieux avec l'arrivée de Bernard Arnault, enfin de LVMH, hein. Là ça a été une envolée de moineaux au niveau de la clientèle, hein. Tous les clients de la Samaritaine ont disparu, hein. Et comme les nouveaux on les a jamais vus arriver, donc ça c'est sûr que pour être au calme, on était au calme. Mais moi j'ai connu l'époque glorieuse de la Samaritaine quand je travaillais notamment au rayon jardinage qui était juste à l'entrée du métro. Je peux vous dire que quand on ouvrait les portes le matin à l'entrée du métro, vous pouviez pas traverser l'allée. Parce que tellement il rentrait de clients, quoi. C'était quelque chose, c'était de...
Vous auriez risqué de mourir écrasé? C'était le stade du SL à la Samaritaine.
En tout cas, c'était un peu comme dans une manif, quoi. Vous risquiez d'être bousculé ou... Voilà. Donc, on attendait, fallait bien attendre une demi-heure que, après, bon, ça rentrait plus régulièrement. Mais là, ils étaient tous agglutinés, ouais, derrière les portes. Ils attendaient que ça ouvre, comme...
À 9h30, il y avait énormément de monde. Après, à la fin, il y avait 4 personnes qui attendaient dans les années 2000. Il y a 4 personnes qui attendaient, puis c'était fini.
Et comment vous avez appris alors la fermeture du magasin? Comment ça s'est passé?
Ben nous, on l'a appris au comité d'entreprise, hein, en réunion, du jour au lendemain. Mais moi, personnellement...
Tu es revenu du CHSCT, ouais. Et tu m'as dit... Après, on avait le CE. Et Mado m'a dit, c'est même pas la peine d'aller au CE, parce que le magasin ferme la semaine prochaine, le 15. Donc là, on va prendre les mégaphones et on va faire tous les étages du magasin. Et en faisant les étages, les employés nous disaient « Mais vous êtes complètement malade, vous avez perdu la tête, ne dites pas des choses comme ça. » Ils ne voulaient pas le croire parce que c'était le jeudi et quelques jours après. le 9, et 6 jours après, le magasin fermé. Donc, il a fallu commencer à les prévenir.
En 6 jours.
En 6 jours. Remarque, ils l'ont fait fort, hein, parce que oui, sans vagues et sans rien, en 6 jours, ils ont fait partir 1500 personnes en 6 jours. Donc, le groupe LVMH, franchement, un jour, j'ai dit que c'était un rouleau compresseur du social et du personnel, mais vraiment, ce jour-là, je ne me suis pas trompé. Hein.
Normalement, une usine de 1500 personnes, ça met un peu plus de temps à fermer, à arrêter les cheminées et tout ça.
Ils ont trouvé la stratégie qu'il fallait. Ils ont dit qu'il y avait l'insécurité dans le magasin, donc on pouvait, à la limite, c'était difficile de mettre quand même des gens en péril, à la limite. Donc, ils ont vraiment trouvé le moyen idéal pour faire la fermeture.
Quelque temps, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Gilbert
Bécaud,
ouais.
Bon, ben, c'est gay quand même dans le tocard, hein. C'est gay. On va à Paris, après tout, c'est une sortie, on s'est fait belle, etc. Mais surtout que, il y en a une qui est devenue actionnaire. Et c'est pas rien. Et c'est Marie-Hélène Bourlard. Et ben voilà, il faut se dépêcher maintenant parce que l'assemblée des actionnaires va commencer.
Donc, moi, comme j'ai une convocation, je vais rentrer à l'intérieur. Et je vais essayer, je dis bien essayer, d'inviter Bernard Arnault et ses actionnaires de sortir. D'abord, on va se faire entendre. J'espère que vous crierez toutes vos forces. Enfin, pas maintenant, quand on va être devant la porte.
Hein.
J'essaierai d'inviter Bernard Arnault, s'il veut bien me suivre. À vous rencontrer. Hein, nous, tout ce qu'on veut, c'est du travail. On veut qu'il change le contrat. Alors, quand je serai à l'intérieur, n'hésitez pas à crier. Hein. Je vous fais confiance, du travail. Ah mais moi je reste toujours calme, hein. Hey, n'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Allez, bon courage à Marie-Hélène.
Ben, vous nous suivez, hein.
Ah oui, ah ouais.
J'ai le cœur qui bat. Je voudrais bien être déjà à l'intérieur. On verra bien. Hein. Donc c'est ici.
Je crois que c'est ici l'entrée. Et après, normalement, c'est fléché, donc on va...
D'accord.
Excusez-moi, bonjour. On cherchait l'assemblée, l'assemblée des actionnaires. Tout droit au fond. Vous avez vos papiers, Marie-Hélène, l'actionnaire?
Oui. Oui. Pour être à l'intérieur de cette assemblée générale.
Allez-y vite avant qu'il ferme. Pourquoi vous lui fermez la porte? Cette dame est actionnaire.
C'est un actionnaire, moi.
Attendez,
je suis actionnaire. J'ai quand même le droit d'être à l'intérieur. Attendez, je ne veux pas être bousculée, monsieur. Je suis actionnaire. N'oubliez pas de lever.
Allô, François. Elle est rentrée en dernier. Donc, on a failli tout fermer parce qu'on a lavé les banderoles. Mais elle est là. Voilà, elle est à l'intérieur. Bon, à tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Ça, vous êtes impatient. Mais vous le saurez demain. Il y en a un qui n'a pas réussi à entrer quand même, parce qu'il n'est pas actionnaire. C'est Robert Barra, le maire d'Aulnay-Aymeries. Ça s'est mal passé.
Qu'est-ce qui se passe là?
Il y a le maire d'Aulnay-Aymeries qui a voulu rentrer dans la salle de l'Assemblée et les bougies l'ont empêché de rentrer. Je ne sais pas, je n'ai pas vu s'ils l'ont frappé ou pas, mais il s'est retrouvé à terre.
Monsieur le maire?
Oui.
On vous a quasiment mis par terre?
Non, on m'a mis par terre, pas quasiment, madame. On m'a jeté par terre comme un malpropre. Vous savez, les violences, on voit où elles sont, quoi. On voit où sont les violences. Nous sommes venus ici normalement défendre l'emploi, et vous avez vu de quel côté sont les violences aujourd'hui. Mais enfin, vous savez, être par terre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les femmes gardent leur travail. Le reste après, je suis maire de la commune de Aulnay-Aymeries, vice-président au conseil général, et je viens défendre mon territoire, je viens défendre les salariés. Nous avons le taux de chômage le plus élevé de France et un territoire qui est frappé fortement par la détresse. On vient simplement s'expliquer et regarder comment on est reçu, quoi. Donc aujourd'hui, défendre son emploi, apparemment, c'est interdit. Ces femmes qu'on appelle les femmes au doigt d'or, qui font les plus belles collections de France, et je crois qu'elles méritent d'être traitées différemment. Elles gagnent le SMIC. Elles sont là depuis 30 ans, et je pense que Bernard Arnault ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette, dire « c'est tout, vous disparaissez, je m'en vais ailleurs, parce que le costume va coûter 30 euros en moins ». C'est pas assez. humainement pas acceptable.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Demain, on va l'attendre jusqu'à demain. Merci à tous. Merci à Robert Barra, le maire d'Aulnoy-Aymeri. Merci à Madeleine Charton et aux licenciés de la Samaritaine. Merci à Marie-Hélène Bourlard et aux ouvrières de l'OCCE. C'était un reportage de Pascal Pascariello et François Ruffin. À lire Portrait de l'homme d'affaires en prédateur par Michel Villette et Catherine Villermeau aux éditions La Découverte, et L'Ange Exterminateur, si vous le trouvez encore, par Héry Routier aux éditions Albin Michel. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site non officiel de La Basse J'y suis, là-bas.org, la-bas.org.
Sans oublier le numéro du répondeur de La Basse J'y suis, 01 56 40 37 37. Dans quelques instants, nous allons retrouver Frédéric Ledéon. Il est 16h. Merci d'écouter un temps.